Thérèse, souvenir d'Allemagne, d'Amédée Achard. Un matin, en se levant, un jeune homme de Paris qu'on appelait Gérard de N reçut une lettre de son notaire qui le priait de passer chez lui. Ce notaire était d'un caractère méthodique et silencieux. Il ne lui écrivait jamais que dans les circonstances urgentes. Gérard se rendit donc sur le champ à son étude, et un petit clerc l'introduisit dans le cabinet de son patron. Le notaire montra son client un vieux fauteuil de cuir et lui présentant un papier. « Vous avez, dit-il en s'adressant à Gérard, une parente en Allemagne ?»«
Une parente ? C'est possible, je ne sais pas. »«
Je le sais, moi. C'est une sœur de votre grand-père. Elle vient de mourir sans laisser de testament. Vous êtes son plus proche héritier. » Voyez s'il vous convient de réclamer la succession ou de la laisser aux collatéraux.
Et cette succession est-elle considérable ? Demanda Gérard.
100 000 écus à peu près. Voici les titres qui constituent vos droits.
Si riche qu'on soit, 100 000 écus ne sont pas choses qu'on dédaigne.
C'est bien, reprit Gérard. Cela me contrarie un peu à cause des courses de chantier qui vont commencer, mais je partirai.
Il se leva, mit les papiers dans sa poche, prit sa canne et salua le notaire.
Vous ne me demandez pas seulement où il faut aller pour recueillir l'héritage, s'écria le tabellion d'un air bourru.
Tiens, c'est vrai. Vous m'avez dit en Allemagne, je crois.
En Allemagne, en Allemagne. Vous chercheriez longtemps s'il vous fallait faire le tour de l'Allemagne. C'est à D que votre tante est morte.
Gérard sortit là-dessus et partit le jour même.
L'homme de loi auquel le jeune héritier s'adressa en arrivant à D trouva que les droits de Gérard étaient incontestables, mais la succession de la bonne dame était embarrassée d'affaires litigieuses qui devaient en rendre la liquidation lente et laborieuse. 3 semaines s'écoulèrent sans que Gérard pût encore prévoir le moment où finiraient les inextricables difficultés qui surgissaient de toutes parts. Les trésors du fameux jardin des Hespérides était moins bien gardé que les 100 000 écus que Gérard était allé chercher en Allemagne. Il attendait néanmoins avec patience un dénouement chaque jour promis et chaque jour reculé, mais dans cette attente il s'ennuyait. Une lettre qu'il écrivit à cette époque à un de ses amis de Paris donnera une idée de son ennui.
Ce 7 mai 1850 et quelques, mon cher Henri, le croiras-tu ? Je bois de la bière et je fume dans une grande pipe dont le fourneau de porcelaine blanche est orné des portraits authentiques de Faust et de Marguerite. Voilà à quelle extrémité m'a réduit la vie que je mène ici. Je commence le jour par une chope et je le finis par une pipe. C'est le chemin de l'abrutissement. Cette chope et cette pipe croissent et multiplient. Elles naissent les unes des autres. Encore 3 mois, je me surprendrai en flagrant délit de conversation allemande et je ne me reconnaîtrai plus.
On parle quelquefois de l'ennui à Paris. Certaines personnes même ont la prétention de l'avoir éprouvé. Quelle fatuité ! L'ennui français, l'ennui parisien surtout, est une distraction. Il jette de la variété dans la vie. On ne connaît l'ennui qu'à D. Il y est né, il y habite, et jamais il n'émigre. Le jour même de votre arrivée à D, il vous rend visite. Le lendemain, il boit et fume avec vous. On n'a pas d'amis plus fidèles. Les hommes d'affaires entre lesquels je distribue mon temps sont bien certainement les plus honnêtes gens du monde, mais ils ont le malheur de se ressembler tous, et cette continuelle ressemblance est une des choses les plus monotones qui se puissent voir. Il en est ici des maisons comme des hommes, il n'y a qu'une architecture comme il n'y a qu'un caractère. L'hôtel où je suis descendu est vaste, grand, haut et carré comme une caserne. Dès qu'on a passé le Rhin, on rencontre cet hôtel partout. Des fenêtres de mon appartement, je vois manœuvrer l'infanterie prussienne, et ce spectacle constitue un de mes plus vifs divertissements. De ces mêmes fenêtres, je vois encore les arbres du parc de D. Ce parc est fort beau, et on y entend le soir la musique militaire du régiment qui tient garnison dans la ville. Cette musique est très bonne, mais je suis le seul à l'écouter. Personne ne se promène à D. Si on voyait en une semaine, dans la principale rue de la ville, passer autant de monde qu'on en rencontre dans une rue de Paris en 1 heure, le gouvernement croirait qu'une révolution va éclater et ferait prendre les armes à sa troupe. Le garçon d'hôtel qui me sert m'avait d'abord amusé. Il est si bête. Comme je lui demandais des renseignements sur D, Samuel, c'est son nom, sourit d'un air béat. « Ah, monsieur,
s'écria-t-il. Les femmes y sont rouges comme des cerises et rondes comme des pommes. » Après quoi il s'en alla en branlant la tête comme un magot. Évidemment, sa comparaison l'avait rempli de joie. La bêtise n'est malheureusement pas un plaisir qui puisse égayer longtemps. Samuel ne me suffit plus, et cependant il rit toujours quand il me regarde. Il faut croire qu'il y a dans mon visage quelque chose qui excite son hilarité. Si maintenant tu me demandes à quelle époque je quitterai D, je te répondrai avec mon homme d'affaires « bientôt ». Mais comme on ne se lasse pas de me répéter ce mot sur tous les tons depuis le jour de mon arrivée, je crois bien qu'en allemand il signifie « jamais ». Et vous avez le boulevard, et vous avez l'opéra, et vous avez Paris et Ingrat, et vous vous plaignez. Je me suis plaint aussi, voyez, comme j'ai été puni. Prenez garde d'être condamné à 6 mois de dé. Je sais bien que les personnes avec lesquelles je suis en relation m'ont engagé à passer la soirée chez elles. On m'a même invité à 2 grands dîners où chacun des convives riait pendant 5 minutes en souvenir du mot spirituel dit par son voisin 1/4 d'heure auparavant. Après le dîner, il y avait symphonie au salon, ce que les Italiens appellent « musica di camera ». Quelquefois, on valsait un peu entre fiancés. Mais à la 4e soirée, l'expérience m'a démontré que mon ennui solitaire valait mieux que ses plaisirs, et dès lors, j'ai renoncé à les goûter. Ma pauvre bonne tante ne saura jamais ce que son héritage me coûte. Peut-être, m'objecteras-tu, qu'il m'est loisible de l'abandonner aux collatéraux. Oui, sans doute, mais j'y mets de l'entêtement. J'ai commencé, je veux finir. Et puis une retraite, ne serait-ce pas la victoire de l'Allemagne sur la France, un souvenir de Rosbach ou de Leipzig? Non, l'honneur me défend de céder et je ne céderai pas. Je t'ai parlé tout à l'heure du parc de D et des promenades auxquelles on s'y livre quelquefois. L'autre jour, j'ai fait une rencontre du genre féminin. Ne va pas crier à l'aventure. Il n'est question de rien moins que de cela. Il était 4 heures. La musique militaire jouait une valse de Strauss. Au détour d'une allée, j'aperçus sur un banc une jeune fille qui me parut jolie en compagnie d'une vieille dame. Comme je la regardais, la jeune fille sourit et me fit un petit salut de la tête. Je jetai les yeux machinalement derrière moi pour voir si ce salut ne s'adressait pas à quelqu'un que je ne voyais pas. Il n'y avait personne dans le parc. À quelques pas de là, je me retournai. La jeune Allemande s'est élevée et s'éloignait. En s'en allant, elle me sourit de nouveau et me fit de la main un léger signe d'adieu. Il me sembla bien que j'avais déjà rencontré cette jolie fille 2 ou 3 fois dans mes promenades. Mais bien que je retournasse au parc tous les jours, je restais toute une semaine sans l'apercevoir. Elle portait une profusion de rubans bleus qui ne pouvait manquer de la faire reconnaître. Hier enfin, à la même heure, je l'ai retrouvée sur le même banc, avec les mêmes rubans bleus, et en compagnie de la vieille dame que j'avais remarquée déjà. Elle sourit en me voyant, et me salua d'un mouvement de tête amical. Je n'étais pas seul, malheureusement. Mon diable d'homme de loi me tenait par le bras et me conduisait chez un confrère. Il ne fallait pas songer à le quitter. Je passais donc sans m'arrêter. J'imagine que j'ai valsé dans quelques salons de Paris avec cette Allemande l'hiver dernier, et qu'elle veut me montrer par ce sourire et ce salut qu'elle me reconnaît. L'ennui est un puissant conservateur. Je te vois d'ici, mon cher Henri, secouant la tête et faisant la moue. Tant de lignes pour une rencontre, et le pauvre garçon s'en occupe, quelle décadence! Que veux-tu? Je suis à D. Ce que la lettre de Gérard ne disait pas, c'est qu'il était déterminé à retourner au parc tous les jours et à s'y promener jusqu'à ce qu'il pût retrouver la jeune fille au ruban bleu et entrer en conversation avec elle. Il craignait seulement que la présence de la vieille dame ne le gênât un peu. Le hasard le servit à merveille. Dès le lendemain, il aperçut la petite Allemande sur son banc, et il ne fut pas plus tôt près d'elle qu'elle inclina doucement la tête en le regardant. Gérard s'approcha sans hésiter. « Je savais bien que vous reviendriez, » dit-elle en lui tendant la main. La simplicité de cet accueil déconcerta Gérard. « Mais, » répondit-il avec un sourire fade, « je vous avais vu, il était donc certain que je reviendrais. » Cette réponse était peut-être d'un goût douteux, et tout au moins le compliment qu'elle renfermait était-il d'une désespérante banalité. Cependant, la petite Allemande le reçut comme s'il eût été le plus charmant du monde. « Alors, pourquoi vous faire attendre si longtemps ? » reprit-elle d'un air de reproche. Gérard se retrancha derrière la timidité qui, à vrai dire, n'était pas son défaut. Il n'avait pas osé, il n'avait pas pu. Il s'embrouilla et balbutia un peu. La jeune fille secoua sa tête blonde. « Tout cela serait très bon si nous nous connaissions d'hier, » dit-elle. « Mais entre nous, pourquoi tant de façons ?» Pour le coup, Gérard se trouva fort embarrassé. Il ne douta plus que l'Allemande et lui ne se fussent rencontrés dans quelque maison à Paris. Mais il eut beau la regarder avec attention, ses traits ne lui rappelaient aucun souvenir. Il cherchait quelques mots pour répondre lorsque la fille au ruban bleu poursuivit avec vivacité. « Vous viendrez nous voir, ma maison est tout près d'ici. Il y a un beau jardin avec une porte verte entre deux buissons de clématite et de chèvrefeuille. Le soir, quand il fait clair de lune, c'est charmant. Nous prendrons du chocolat. L'aimez-vous toujours ?»« Oui, » répondit résolument Gérard, dont l'étonnement augmentait de minute en minute. « Mais, » reprit tout à coup son interlocutrice, « pourquoi donc avez-vous changé de nom ? Vous vous nommiez Rodolphe autrefois. » « Et j'ai bien entendu hier qu'on vous appelait Gérard. Gérard est très joli, mais j'aime mieux Rodolphe. » Gérard ouvrit de grands yeux et se gratta le front, cherchant une réponse, lorsque la vieille dame, qui jusqu'alors n'avait pas remué et semblait à 100 lieues de la conversation, leva sur le jeune homme des yeux d'une expression si suppliante qu'il s'arrêta court. « C'est que, » poursuit la jeune fille, à laquelle les longs silences et les monosyllabes du faux Rodolphe ne paraissaient donner aucune surprise, « c'est que vous voulez sans doute cacher votre retour à tout le monde ?»« C'est cela, » dit Gérard. « Eh bien, moi qui n'ai pas voyagé, je m'appelle toujours Thérèse. »« Vous avez bien fait, Thérèse est un nom charmant. » Gérard regarda par terre et se mit avec le bout de sa canne à tracer sur le sable des caractères fantastiques. Il sentait qu'il devenait stupide et regrettait beaucoup la fantaisie qu'il avait poussée à saluer Thérèse. Cette impossibilité où il était de dissiper l'erreur dans laquelle elle était tombée le gênait horriblement. Il voulait parler et ne savait que dire. Il pensait quelquefois que la petite Allemande était atteinte de folie, et le regard que sa vieille compagne avait jeté sur lui le maintenait dans cette idée. Mais quand il examinait Thérèse à la dérobée, rien dans l'expression de son visage calme et souriant, rien dans le vif et doux rayon de ses yeux ne venait confirmer cette supposition. Il était fort perplexe et craignait de trébucher à la première question que Thérèse ne manquerait pas de lui adresser. Il se taisait donc et se contentait de maudire cette fâcheuse ressemblance qui donnait à un Français la figure d'un Prussien. La vieille dame, qui restait silencieuse, le nez dans un gros livre qu'elle semblait lire attentivement, le tira tout à coup d'embarras. « Ma chère enfant, dit-elle, voilà, je crois, le moment de nous retirer. Il est 5 heures. » À ces mots et sans répliquer, Thérèse se leva toute droite. Elle ajusta son mantelet et tendit de nouveau la main à Gérard. « À demain, » dit-elle, « je vous ferai voir mon jardin. » Elle s'éloigna d'un pas tranquille au bras de la vieille dame, se retourna au coin de l'avenue et disparut, laissant Gérard tout étourdi de la rencontre qu'il venait de faire et de la conversation qu'il avait suivie. Il rentra à l'hôtel, fort troublé et fort indécis à l'endroit du rendez-vous que Thérèse lui avait donné pour le lendemain. Devait-il y aller ou ne plus reparaître dans le parc? Mais ne plus y reparaître, c'était se priver de la musique militaire qui faisait sa principale, presque son unique distraction. Sa curiosité, en outre, était excitée. Naturellement, il questionna Samuel pour obtenir quelques renseignements sur Mademoiselle Thérèse. Mais Samuel était originaire de Cologne, il n'habitait D que depuis 2 ou 3 mois et ne connaissait de la ville que les voyageurs qui la traversaient. Gérard s'endormit sans avoir rien résolu et vit en rêve les dossiers de sa succession entourés de rubans bleus avec des couronnes de clématite et son brave homme de loi qui dansait en robe blanche. Une visite matinale le tira de ses extravagances. Le bruit de sa porte qu'on poussait lui fit ouvrir les yeux. Et il vit la vieille dame que Samuel introduisait dans sa chambre avec un sourire malin. Elle pria Gérard de ne pas se déranger et s'assit sur un fauteuil au pied du lit. « Mon Dieu, monsieur, » dit-elle à Gérard quand ils furent seuls, « ma visite a lieu de vous surprendre, mais je tenais à vous expliquer certaines choses que sûrement vous n'avez pas comprises. Peut-être même, après que vous m'aurez entendu, aurai-je un service à vous demander. » Elle se tut un instant, parut se recueillir, puis raconta à Gérard son histoire et celle de Thérèse. La vieille dame s'appelait Madame de Lubnor. Thérèse était sa petite nièce. En fait de parents, Thérèse n'avait qu'elle au monde avec des cousins éloignés qu'elle n'avait jamais vus et qui habitaient Berlin. La jeunesse de Thérèse était passée à la campagne, entourée de toute l'aisance et du luxe que donne une grande fortune. Les meilleurs maîtres avaient aidé à cultiver les heureuses dispositions de son esprit. Quant à son caractère, il était d'une douceur et d'une égalité qui ne se démentaient jamais. On remarquait seulement en elle un singulier penchant à la rêverie et au merveilleux. Thérèse avait à cette époque un cousin germain du nom de Rodolphe, avec lequel s'était écoulée une partie de son enfance. Elle le revit à l'âge de 16 ans, et ils vécurent ensemble 18 mois ou 2 ans, après lesquels on les fiança. La vie de Thérèse était alors comme un frais et limpide ruisseau qui coule entre deux rives fleuries, sans bruit et sans murmure. Le père, qui avait des idées arrêtées sur les questions d'argent, voulut, aussitôt après ses fiançailles, que Rodolphe voyageât, prit une teinture du commerce et, à défaut de fortune acquise, se mit en position d'en gagner une par son industrie. Le jeune homme partit donc pour l'Amérique, où l'un des amis de M. Van B. avait de grands établissements. À peu de temps de là, M. Van B. fut emporté en 3 jours par une attaque d'apoplexie. On trouva dans ses papiers une lettre par laquelle il enjoignait à sa femme de suivre en tout point les instructions qu'il lui avait données pour le mariage de sa fille. Cette lettre arrêta Mme Van B., qui déjà s'apprêtait à écrire à Rodolphe pour le faire revenir. Elle se résigna, ainsi que Thérèse, à attendre le terme de 4 ans fixé par le défunt. Rodolphe écrivait souvent, et ses lettres témoignaient des progrès qu'il faisait dans la science des affaires et de son application à obéir aux vœux de Mme Van B. Thérèse touchait à sa 20e année. Déjà plus de la moitié du temps prescrit s'était écoulé lorsqu'on apprit un soir que Rodolphe était mort de la fièvre jaune à la Nouvelle-Orléans. La fatalité voulut que Thérèse fût instruite brusquement de cette mort. Elle tomba par terre en recevant la nouvelle et resta toute une nuit et tout un jour sans donner signe de vie. Toute la maison tremblait à la pensée du désespoir qu'elle montrerait à son réveil. Quand elle ouvrit les yeux, Thérèse sourit. Elle passa les mains sur son front et s'informa du motif qui faisait que tant de personnes étaient réunies autour d'elle. La tranquillité de ce réveil fut plus effrayante que n'aurait pu l'être l'explosion de sa douleur. Tout le monde la regardait avec des yeux épouvantés. Elle demanda pourquoi elle était couchée, et sur la réponse qu'on lui fit qu'elle avait été un peu malade, elle déclara que c'était bien fini et qu'elle voulait se lever. Sa mère se sauva en courant dans une chambre voisine et tomba à genoux. Elle pleurait à chaudes larmes et criait que sa pauvre fille était folle. Depuis cette malheureuse journée, Thérèse n'avait presque jamais parlé de Rodolphe. Il semblait qu'elle eût entièrement perdu l'usage de la mémoire. Le coup violent qu'elle avait reçu avait produit comme un vide dans une case de son cerveau. Cependant, en dehors de tout ce qui se rattachait au souvenir de son fiancé, elle était restée à peu près la même. On remarqua seulement que Thérèse se plaignait quelquefois d'une douleur aiguë à la tête. Elle avait toujours cette humeur égale qu'on lui avait connue au temps de son bonheur. Mais elle n'était plus gaie, et son penchant à la rêverie inclinait vers une sorte de mélancolie dont rien ne pouvait l'attirer. Madame Van B., désespérée de l'état de sa fille, tomba dans une maladie de langueur qui fit de rapides progrès et mourut en se reprochant d'avoir été la cause de cette catastrophe par une soumission trop absolue aux ordres de son mari. Avant d'expirer, la pauvre femme avait appelé auprès d'elle une de ses parentes, Madame de Lubnor, à laquelle elle avait demandé comme une grâce de ne jamais abandonner Thérèse, quoi qu'il arrivât. Madame de Lubnor l'avait solennellement promis, et depuis ce moment la vieille dame et sa pupille vivaient ensemble dans cette même maison où la nouvelle de la mort de Rodolphe avait porté un si grand trouble. La fin de sa mère ne parut pas produire une grande impression sur l'esprit de Thérèse. Elle pleura beaucoup le lendemain quand on s'opposa à ce qu'elle entrât dans la chambre où Madame Van B. avait rendu le dernier soupir, se plaignant que tour à tour on la séparât de tous ceux qu'elle aimait. Elle en parla 2 ou 3 fois les jours suivants. On ne savait que lui dire, dans la crainte que la découverte de la vérité n'agît sur elle comme un coup de foudre. Mais enfin, sur l'observation d'un vieux serviteur qui lui dit en balbutiant que sa mère était partie pour le ciel. « Ah oui, dit-elle, elle voyage comme Rodolphe. Ce fut tout, et elle n'en demanda plus de nouvelles. Cet amour du merveilleux, qui avait toujours paru chez Thérèse, se manifestait de plus en plus. On l'entendait quelquefois causer toute seule dans le jardin, comme si une personne invisible eût été là pour lui répondre. Elle parlait bas, élevait la voix, chantait et agissait toute chose comme une personne qui aurait été sous l'empire d'une hallucination. Ce fut alors qu'elle contracta l'habitude de s'habiller de blanc, avec une profusion singulière de rubans bleus qu'elle attachait à son corsage, à ses cheveux, à son chapeau, à ses poignets. On finit par découvrir qu'un vieux pastel, qui se trouvait dans une pièce écartée et que Rodolphe aimait beaucoup, représentait une femme ainsi vêtue. Son esprit incertain attachait peut-être à ce costume une signification qui échappait à tout le monde. Peut-être voyait-elle dans cette robe blanche et ses rubans bleus la toilette des fiancés. Chaque jour, à 5 heures, heure où la fatale nouvelle lui avait été apportée, Thérèse tombait en syncope. C'était moins encore un évanouissement qu'un sommeil magnétique. On avait cherché quelque temps à combattre cette disposition, mais elle éprouvait alors une telle agitation, des transports si vifs et si violents, de tels accès de rire et de pleurs, qu'on dut renoncer à la contrarier. Ses sommeils ne duraient jamais plus d'une heure ou deux, et elle en éprouvait un soulagement singulier. Le mal dont elle souffrait à la tête augmentait ou diminuait d'intensité, suivant que ce repos surnaturel avait été plus ou moins profond. La vie des deux femmes était tout à fait calme et retirée. Elles avaient quitté le monde et petit à petit le monde les avait oubliées. Elles ne sortaient presque jamais de leur maison, si ce n'est pour quelques promenades dans le parc de D. Cependant, depuis la rencontre qu'elles avaient faite de Gérard, Madame de Lubner avait remarqué que Thérèse montrait plus d'animation et plus de vie. Sa tristesse habituelle avait même un peu cédé. On l'avait entendue rire. Le cœur de la pauvre femme en était épanoui. Elle y voyait comme l'aurore d'une guérison possible. Mais à quoi attribuez-vous cette familiarité qui d'abord m'a si étrangement surpris ? Demanda Gérard à Madame de Lubner après qu'elle eut achevé son récit. Trouvez-vous quelque ressemblance entre ce Rodolphe de qui vous parlez et moi ?
Oui, certainement, bien qu'elle ne m'eût pas frappé si Thérèse ne me l'avait fait observer, répondit Madame de Lubner. Le premier jour où vous vînt à passer, elle me poussa du coude.
Chut ! Me dit-elle tout bas, et la bouche contre mon oreille. Le voilà !
Je ne compris pas d'abord, et je regardais de tous côtés. Un moment après, elle me pressa le bras, vous étiez près de nous, et Thérèse vous fit un signe de la tête.
Je vois bien, me dit-elle, qu'il ne va pas être reconnu, mais certainement il nous viendra voir. Et comme vous vous éloigniez, elle ajouta, il est un peu changé, n'est-ce pas? Il a tant voyagé. Ces derniers mots furent un trait de lumière, je compris tout. Elle voyait en vous ce Rodolphe, qu'elle n'a jamais pleuré et qu'elle a regretté jusqu'à la folie.
Madame de Lubner se couvrit le visage de ses mains.
Que voulez-vous que je fasse? Dit Gérard. Si je puis vous être bon à quelque chose, disposez de moi. »
Il fut convenu entre elle et Gérard qu'il retournerait au parc et que si Thérèse lui demandait encore de la venir voir dans son jardin, il s'y rendrait. Mais surtout, il promit de ne pas la tirer de son erreur et d'agir en toute chose comme s'il eût été réellement Rodolphe. Madame de Lubner lui donna quelques indications qui devaient lui permettre de jouer son rôle et ils se séparèrent. Le jour même, quand ils se revirent, Thérèse ne manqua pas de dire à Gérard qu'elle l'attendait dans son jardin.
« Nous y serons seuls, » reprit-elle. « Personne ne nous y verra. Ainsi, ne craignez rien. »
Il promit d'y aller et s'y rendit en effet à 7 heures. La maison habitée par Thérèse était entourée de haies vives et d'arbustes comme une maison de campagne. Située à l'une des extrémités de la ville et décorée avec beaucoup de goût, elle avait un aspect souriant qui plaisait au regard. Elle était blanche avec des touffes de roses le long des murs. Quand Gérard parut, Thérèse venait de sortir de son sommeil léthargique. Elle passa vivement son bras sous le sien et l'entraîna vers un berceau de jasmin et de chèvrefeuille où ils s'assirent l'un près de l'autre.
« La lune va se lever dans une heure, » dit-elle. « Nous prendrons du chocolat et nous ferons de la musique. »
Elle battit des mains comme un enfant et regarda Gérard.
« M'aimez-vous ainsi ? » reprit-elle. « J'ai pensé à vous en mettant ces rubans bleus. » Thérèse était une de ces femmes à qui le chapeau fait perdre une partie de leurs avantages. Tête nue, elle était charmante. Elle avait une grâce singulière dans tous les mouvements et un son de voix d'une douceur extrême. Gérard, qui ne pouvait s'empêcher d'être ému en la regardant, la trouva donc ce qu'elle était réellement, très jolie et très séduisante. Elle avait dans l'esprit un tour original qui prêtait un grand attrait à sa conversation. On n'y découvrait aucun trouble, aucun embarras, mais elle laissait voir une certaine exaltation dans toutes les choses qui touchent aux influences occultes, à la vertu des songes et des pressentiments. Et cette exaltation mêlait un grain de bizarrerie à la fraîcheur de son esprit. Sur ces questions-là, elle se montrait intraitable. « Que de fois vous avais-je vu avant de vous retrouver ?» dit-elle à Gérard. « Le matin même du jour où je vous ai salué pour la première fois, vous m'étiez apparu dans mon sommeil. Aussi n'ai-je pas été surprise quand je vous ai rencontré. » Elle voulut que Gérard lui racontât ses voyages. Grâce aux indications de Madame de Lubna, il s'en tira sans trop d'encombre, mais comme il allait finir, elle l'interrompit. « Vous ne me parlez pas de la Nouvelle-Orléans » dit-elle. « N'y êtes-vous donc pas allé ?» Gérard éprouva un moment d'embarras. « Oui, » reprit-il enfin, « j'y suis allé. » Il y eut un instant de silence pendant lequel Gérard cherchait ses mots et arrangeait une réponse habile. « J'y suis, » s'écria-t-elle. « Vous n'avez fait qu'y passer, après que vous êtes parti. On n'a jamais su pour quel pays. » Tout en parlant, Thérèse chiffonnait les rubans de son corsage, les yeux en l'air, comme si elle eût cherché dans le ciel le nom du pays mystérieux vers lequel son ami avait dirigé sa course. Gérard tremblait qu'un éclair de raison ne lui fît entrevoir la vérité. Mais la lune, qui parut au-dessus de la haie, large et brillante, détourna les pensées de la jeune fille. Elle se leva d'un bond. « Je vous l'avais bien promise, » s'écria-t-elle. « La voilà, la voilà !» Elle entraîna Gérard au sommet d'un petit kiosque d'où l'on voyait la campagne, alors baignée d'une vapeur lumineuse, et s'asseyant à ses pieds, elle posa la tête sur les genoux du jeune homme avec l'abandon naïf d'un enfant. Les visites, une fois commencées, se renouvelèrent. Gérard éprouvait un charme indéfinissable dans la compagnie de cette aimable fille, dont l'esprit se dépouillait lentement, mais avec des grâces infinies, des voiles où la tristesse et le silence l'avaient quelque temps enlacé. Il ne pouvait dire s'il l'aimait ou si la pitié seule le ramenait à la porte verte du jardin, mais il ne pressait plus les hommes d'affaires et les laissait complaisamment embrouiller l'inextricable écheveau de formalité dans lequel la succession de sa tante était prise comme dans un filet. Quand il rentrait le soir dans son hôtel, il se demandait bien quelquefois comment finirait cette aventure. Mais comme il ne se sentait pas la force d'agir à la façon d'Alexandre tranchant le nœud gordien, il s'endormait et n'y pensait plus. Madame de Lubner s'inquiétait bien aussi de cette rencontre dont le hasard avait fait une intimité. Quelles n'en pouvaient pas être les conséquences? Mais le bien-être qu'en ressentait sa pupille, le calme, la joie, la vivacité qu'elle lisait dans ses traits ranimés par le souffle de la vie, étaient autant de résultats qui faisaient taire la voix de la prudence. Dans l'existence pâle et déshéritée que lui avait faite le hasard, devait-elle priver Thérèse de cette suprême consolation? Elle laissait donc conversation et promenade suivant leur cours. Thérèse était bonne musicienne. Il lui arrivait souvent le soir, quand la pluie ou le vent ne permettait pas de rester au jardin, de se mettre au piano, de chanter les mélodies de Schubert ou de jouer quelques sonates de Mozart. Elle ne le faisait jamais sans que de grosses larmes lui tombassent des yeux. Les adieux, surtout, qu'elle n'avait plus chantés depuis le départ de Rodolphe, produisaient sur elle une impression profonde. Elle pleurait dès les premières mesures et presque toujours était forcée de s'interrompre avant la fin. Un soir, qu'elle avait beaucoup pleuré, elle alla se réfugier dans le petit berceau où la première fois elle avait reçu Gérard. Il l'y suivit, en proie à un grand trouble. Elle était assise et regardait les étoiles. Le vent faisait pleuvoir sur sa tête les petites fleurs jaunies des jasmins. Des larmes étaient suspendues à ses cils. « Qu'avez-vous et pourquoi pleurer ?» lui dit-il. « Je ne sais. Il y a des jours où j'ai le cœur si gros qu'il faut qu'il éclate, » répondit-elle. « Vous manque-t-il quelque chose ?» reprit Gérard, que ce grand désespoir navrait un peu plus peut-être qu'il n'aurait voulu. « Non, mais je suis comme une personne qui attend. Quoi ? Je l'ignore. Ce que j'attends n'arrive pas, et j'étouffe. Vous n'éprouvez donc jamais cela, vous ?»« Aussi, » répliqua Gérard, mais c'est lorsque je ne suis pas heureux.
Seriez-vous donc malheureuse ?
Non. Le bonheur que vous m'avez rendu me suffit, et cependant je me souviens de quelque chose que je ne me rappelle pas.
Cela vous paraît étrange, n'est-ce pas ?
Peut-être allez-vous me comprendre mieux que je ne me comprends moi-même. Je vous regarde, je vous reconnais, et pourtant il me semble qu'il y a deux Rodolphe, vous et un autre, que je ne vois plus.
Gérard ne put s'empêcher de tressaillir à ces mots.
Oui, reprit Thérèse avec force, vous avez bien les mêmes traits, mais ce n'est pas la même expression. Quand je ferme les yeux, le son de votre voix ne me dit rien. Le son de la sienne me ferait bondir au milieu du sommeil. Il me semble toujours l'entendre. La nuit, elle me teinte dans les oreilles.
D'un mot, Gérard aurait pu expliquer tout ce mystère à Thérèse. Mais il lui était justement défendu de dire ce mot-là. Thérèse resta quelques minutes silencieuse, la tête dans ses mains.
Gérard n'osait la tirer de sa rêverie. Il se pencha vers elle tout ému et posa ses lèvres sur ses cheveux. « Vous êtes bon, » dit-elle en relevant son front candide. « Je vois bien que tout ce que je vous dis là vous fait de la peine, mais ne craignez rien, mon ami. Je vous aime de tout mon cœur. »
« Moi aussi je vous aime, » répondit Gérard. Thérèse secoua la tête tristement.
« Oh, ce n'est pas la même chose. Il n'y a rien dans votre cœur qui ressemble à ce qu'il y a dans le mien. »
Elle détacha vivement un des rubans bleus qui flottait sur son corsage et le chiffonnant autour de son doigt avec un geste mignon.
« Tenez, » poursuivit-elle, « il serait plus facile à ce ruban de changer de nuance et de passer du bleu au rouge et du rouge au vert qu'à moi de changer d'amour. »
Ce mot produisit sur Gérard l'effet d'une étincelle électrique. Malgré lui, il passa ses bras autour de la taille de Thérèse et l'attira sur son cœur. Elle sourit, posa son front sur l'épaule du jeune homme et ferma les yeux.
« On est bien ainsi, » murmura-t-elle. « Je voudrais dormir. »
Les bras de Gérard s'ouvrirent et il abaissa sur Thérèse le chaste regard d'un frère qui veille sur le sommeil de sa sœur.
En quittant le jardin cette nuit-là, Gérard était dans un état de trouble inexprimable. Au lieu de rentrer à son hôtel, il alluma un cigare et se promena au hasard dans les rues désertes de la ville. « Que diraient mes amis, pensait-il, s'ils me voyaient à côté d'une petite fille, échangeant avec elle des paroles confuses comme le brouillard et chantant des barcaroles au clair de la lune ? De quel effroi ne serait-il pas saisi s'ils apprenaient que les petits rubans de son cortège me semblent plus redoutables et m'inspirent plus de respect que toutes les grilles et tous les maris du monde, que mon cœur, un cœur de 30 ans, bat au contact d'un morceau de soie touché par ses doigts enfantins. Je ne soupe plus, je dîne à peine, et je vis à D comme si j'étais à 4 000 lieues du café de Paris. Et s'il savait que j'oublie le bois de Boulogne, le boulevard, le club et l'opéra, ne me croirait-il pas perdu ? Et si par étourderie l'un d'entre eux me demandait où ce beau roman me conduira, que répondrais-je ? Du diable, si je le sais, et peut-être ne voudrais-je pas le savoir. Dans l'ordre des sentiments que Gérard avait connus, caprice, amitié ou passion, il ne trouvait rien d'analogue à celui qu'il éprouvait pour Thérèse. Ce sentiment était vif sans être violent, profond sans avoir d'avenir, sincère sans être sérieux. Peut-être serait-il plus simple de dire qu'il aimait comme la Providence voulait qu'il aimât dans ce moment. Les soirées qu'il passait avec Thérèse avaient fini par devenir quotidiennes. Elles commençaient vers 7 heures et n'étaient jamais terminées avant minuit. La conversation, la musique, la promenade, la rêverie en faisaient tous les frais. Madame de Lübner, tranquillement assise dans un grand fauteuil, lisait ou faisait de la tapisserie. Quelquefois même, elle s'endormait. On parlait bas, alors, pour ne pas la réveiller. Et la soirée finie, Thérèse l'embrassait tendrement sur les deux joues. Madame de Lübner ouvrait les yeux, et la jeune fille l'aidait à se lever. « Allons, ma bonne tante, » lui disait-elle avec un gai sourire. « Il est temps de dormir, je crois. Voilà plus d'un grand quart d'heure que Rodolphe est parti. » Un matin, et tandis qu'il déjeunait, Gérard vit entrer son homme d'affaires comme un coup de vent. « Victoire !» cria l'Allemand en faisant sauter son chapeau. « Nous avons rondement mené l'affaire. » Notez que le bonhomme y travaillait sans relâche depuis 3 mois. « Je crois bien qu'au bout de la semaine, on donnera les dernières signatures. »« Ah, vous croyez ?» répondit Gérard, atterré.
La nouvelle l'affligeait plus qu'elle ne le réjouissait.
La succession liquidée, quel prétexte avait-il pour rester à D ? Il faudrait donc partir, et à vrai dire, il ne s'en souciait que médiocrement. Il pria son homme d'affaires de veiller à ce que tout fût en règle, et à ne rien laisser en arrière, afin, disait-il, de ne pas être obligé de revenir à D. Ainsi, ajouta-t-il en finissant, si quelques jours vous semblent encore nécessaires, ne vous gênez pas pour les prendre, j'attendrai. Le soir venu, il s'achemina tout triste du côté du petit jardin. À peine en eut-il franchi la porte que Thérèse lui prit les mains. « Vous allez partir ? » s'écria-t-elle. « Qui vous l'a dit ? » répondit Gérard vivement. « Personne, mais je le sais. » Elle porta les mains à sa tête comme elle avait coutume de le faire quand elle souffrait. « Une voix me l'a dit en rêve cette nuit, » reprit-elle. « Et puis je le pressentais du premier jour où je vous ai revu. Est-ce qu'on ne part pas toujours ?» Et elle parut s'attacher à ce souvenir flottant plus fortement qu'elle ne l'avait jamais fait. « Oui, » poursuivit-elle, comme s'il se fût parlé à elle-même. « Le premier Rodolphe d'abord, puis le second, ils s'en vont tous et moi je reste. Que c'est triste tous ces départs, ils font la nuit autour de moi. » Quelques larmes tombèrent de ses yeux et coulèrent le long de ses joues sans qu'elle y prît garde. Elle regardait dans l'espace. Le vent qui se lève quelquefois la nuit souffla doucement dans les arbres. Elle releva la tête et sourit tristement. « Le vent pleure aussi, » dit-elle. Elle quitta Gérard et fit quelques tours d'allée dans le jardin, seule, à pas précipités. L'expression de son visage était navrante. Gérard n'osait pas le rejoindre. Il aurait voulu consoler Thérèse et cependant il ne voulait pas mentir. Il se taisait donc, craignant qu'une parole imprudente n'augmentât le trouble dans lequel il la voyait. Au bout de quelques instants, elle revint à lui. « Puisque vous partez, » dit-elle, « je vais vous donner un portrait qu'on a fait de moi il y a 2 ans, au temps où je me souvenais. C'est un petit médaillon. On dit qu'il est fort ressemblant. Me promettez-vous de ne jamais vous en séparer ?»« Je vous le promets, » dit Gérard. « Prenez-y garde. Si vous veniez à le perdre ou à le donner, je le sentirais et j'en mourrais. » On voyait à son accent et à l'éclat de ses yeux qu'elle avait la fièvre. Gérard prit sa main, qui était brûlante. « Pourquoi cette exaltation ?» dit-il en s'efforçant de sourire. « Croyez-vous donc que la vie tienne à un portrait ?»« Oh » reprit-elle, « il y a des choses que vous ne savez pas. J'avais un beau portrait de Rodolphe. Chaque matin, je lui disais bonjour, comme s'il lui eût été là pour m'entendre et me voir. Un matin, je le trouvais par terre. En tombant, un bout du cadre avait touché le feu et la toile était à moitié consumée. Mon cœur se serra et un pressentiment terrible m'envahit tout entière. C'est depuis ce moment qu'on cessa de me parler de lui. C'est depuis ce moment que je souffre de cette douleur à la tête qui ne me quitte presque jamais. Vous êtes arrivé, et cependant je ne suis pas guéri. » Elle quitta Gérard et courut vers la maison, d'où elle revint un moment après avec le médaillon suspendu à un ruban bleu. « Tenez, » dit-elle, « prenez-le. Je n'ai plus ce même sourire, mais le cœur n'a pas changé. » Et elle passa le ruban au cou de Gérard, qui se sentait venir des larmes dans les yeux en la regardant, et le ramena doucement au salon où Madame de Lübner lisait douillettement, blottie dans un fauteuil. De l'agitation que Thérèse avait laissé voir une heure auparavant, il ne restait plus rien qu'un peu de pâleur. Elle s'assit au piano, joua d'abord lentement, puis avec feu et se mit à chanter la Marguerite au rouet de Schubert avec une telle expression que Gérard croyait l'entendre pour la première fois. Frappée elle-même de cette expression, Madame de Lübner laissa tomber le volume sur ses genoux. « Je crois, » dit-elle en se penchant à l'oreille de Gérard, « je crois que la raison lui revient. »« Hélas, » répondit Gérard tout bas, « je crois que son âme s'en va. » Il est difficile de savoir ce que Gérard eût fait si à peu de jours de là il n'eût reçu une lettre de l'ami auquel il avait écrit peu de temps après son arrivée à D. Cette lettre lui annonçait qu'une affaire dans laquelle Gérard avait engagé presque toute sa fortune était en grand péril. S'il ne voulait pas tout perdre, il devait se hâter et revenir à Paris sur le champ. Cette nouvelle fixa les irrésolutions de Gérard comme un poids fait tout à coup pencher l'un des plateaux d'une balance. Thérèse était prévenue de son départ. Cette ruine dont il était menacé ne lui permettait plus, en supposant qu'il lui eût jamais pensé, de demander la main d'une héritière aussi riche que l'était la rêveuse fille. Pouvait-il en outre abuser de l'erreur où la folie de son cœur la jetait et l'épouser au nom de Rodolphe ? Gérard se dirigea vers le jardin, bien décidé cette fois à dire à Thérèse qu'il partirait le lendemain. Dans sa précipitation, et comme un homme qui veut prendre un parti brusquement, dans la crainte d'en changer s'il hésite, il avait oublié l'heure, et arriva chez Thérèse au moment où elle était encore dans son sommeil léthargique. Sa présence la réveilla en sursaut. Elle se leva d'un bond et se jeta dans ses bras. « Ah ! Dit-elle, je savais bien que vous partiriez, mais je ne croyais pas que ce fût si tôt. » Gérard la ramena sur un fauteuil, où elle resta quelques minutes sans parler, la tête appuyée sur son épaule. Il sentait les pulsations de son cœur qui battaient à coups pressés. « Adieu donc, reprit-elle enfin. Adieu. Mais je reviendrai, se hâta de répondre Gérard. Je reviendrai bientôt. » Thérèse secoua la tête et le regarda bien en face. « Vous, jamais, dit-elle avec force. Mais pourquoi? Croyez-vous donc que je puisse vous oublier? Je ne sais pas si vous m'oublierez, mais bien certainement vous ne reviendrez pas. » Elle laissa tomber sa tête sur sa poitrine et demeura quelque temps dans un accablement profond, les mains jointes sur ses genoux. Gérard un instant se demanda s'il ne ferait pas bien de renoncer à Paris, de dévouer sa vie à cette charmante fille, de l'emmener dans quelque lieu désert et d'en faire sa femme, lorsqu'à force d'amour et de dévouement, il l'aurait conquise à la raison. Mais si elle l'aimait, n'était-ce pas un autre qu'elle aimait en lui? « Au moins, dit Thérèse en l'attirant vers elle, aimez-moi toujours. Cela ne vous fera pas grand-peine et me fera grand bien. » Elle prit des ciseaux et coupa les rubans bleus qu'on voyait sur sa robe. « Vous partis, poursuivit-elle, personne ne me verra plus dans cette parure. Il me semble que je suis veuve. » Madame de Lubner sortit de la chambre pour ne pas laisser voir à Thérèse qu'elle pleurait. « Mais, dit Gérard, vous parlez comme si nous ne devions jamais nous revoir. Si cependant je revenais, que diriez-vous ? » « Oh, alors, répondit-elle presque gaiement, vous me retrouveriez avec ma robe blanche et mes rubans bleus, je vous le promets. » Il fallut enfin se séparer. Gérard redoutait beaucoup ce moment. Thérèse y montra plus ferme qu'il ne l'aurait cru. Elle était seulement d'une pâleur de morte. Quand il fut à la porte du jardin, Thérèse le serra sur son cœur avec un mouvement de passion qui bouleversa Gérard. « Surtout, lui dit-elle tout bas à l'oreille, ne perdez pas le portrait. Adieu, ajouta-t-elle. Elle ouvrit les bras, poussa la porte et rentra dans le jardin. Gérard se pencha sur la grille et vit la robe blanche de Thérèse qui s'éloignait entre les arbres. Une minute après, il ne vit plus rien. Il se sauva en courant et sans regarder derrière lui.